Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. On va aujourd'hui, donc c'est pas un épisode de news, on va parler aujourd'hui de Next.js. Voilà, refaire un petit peu l'historique de Next.js, pourquoi il a été créé, etc. Donc refaire un petit peu le point. Et bah, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et moi, je suis super content de revenir sur toute la genèse d'un projet qui aujourd'hui, en fait, est admis pour tout le monde. Ça marche, c'est facile, c'est trop bien, ça nous facilite la vie. C'est out of the box, c'est devenu un standard. Mais c'est toujours bien de comprendre un peu l'histoire de ce framework et de toute l'évolution technologique qu'il y a eu derrière. Et je trouve que tu as eu une super idée de revenir avec cet épisode-là. Et même si je ne te cache pas que je ne suis pas un grand fan de React, néanmoins, ouais, on ne peut pas nier le fait que ça a marqué, et en tout cas en tant que dev web, ça a eu un impact hyper, hyper, hyper fort. Donc oui. Non, c'est top. C'est top.
Ouais, bah alors, pour revenir avant l'idée, je l'ai eu tout simplement parce qu'en fait, je sais plus, une personne a posé la question sur Next.js, vends-moi Next.js, je sais plus quoi, pour du bac et tout ça. Et puis j'ai regardé les réponses, tout ça. Moi, j'ai répondu, puis j'ai regardé les réponses, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu arrives dans le développement, même depuis 3-4 ans, tu vois, si tu as commencé à la Covid à développer, donc tu n'es plus vraiment junior, tu vois, mais Next.js, c'est facile, ça fait du SSR tout seul, machin, ça marche en fait, et finalement, bah, tu te dis, bah, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, ça serait pas mal de faire un historique sur pourquoi on a créé Next.js à la base, mais vraiment pourquoi et quelles solutions il a apporté. Et voilà.
Quel problème il résout, tout simplement.
Quel c'est ça, problème en fait, il résout. Parce qu'il a résolu des problèmes dès le début, en fait, en 2016. Donc c'est pour ça.
Yes.
Donc voilà. Et donc j'ai fait. Oui, pardon, vas-y.
Non, mais pour le coup, t'as fait un truc où t'as récupéré en fait un peu tout l'historique et t'as fait une sorte de timeline. Alors on mettra les deux sites et les deux sites que t'as fait. Par contre, tu les as fait à la main ou?
Alors, le texte, c'est mon texte. Hein. Je n'ai pas généré par IA ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui l'ai écrit. Je me suis fait assister un petit peu pour retrouver quelques infos. Mais alors ça, je l'ai fait avec Bolt. Je lui ai dit, fais-moi une timeline avec... je lui ai donné le bloc de texte, tout ça. Je lui ai dit, fais-moi une timeline. Hein. Il m'a fait un truc tout pourri, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça super pourri. Avec des couleurs bizarres et tout.
ça fait le job. Ça fait le job. On voit tout l'historique de la timeline. Non, c'est plutôt pas mal.
Je
lui ai
pas dit de me faire un site. Il m'a fait un site, en plus, avec des liens bidons à propos et tout. Je sais pas. Sans déconner.
Okay.
Bon, bref. Voilà. Donc c'est marrant quand même de faire. Moi j'aime bien tester un peu, voir ce qui me sort et tout. Donc ça c'est cool, ça c'est Bolt. Et après j'ai utilisé un autre outil, ça s'appelle Gamma. Donc tu connais aussi. C'est un système. Alors ça c'est assez magique. Il te crée des slides en fait, des présentations à partir de textes tout ça. Mais tu peux faire aussi donner un prompt. Par exemple, il donne dans les exemples, fais-moi l'histoire de la tomate ou je sais pas quoi, la genèse de la tomate, je sais pas quoi. Et il te fait des slides sur la tomate avec des photos de tomates et tout. Donc là, c'est cool parce qu'il te fait des présentations, il va chercher les images et tout, il t'adapte un petit peu le texte et tout. Donc c'est plutôt efficace. Après, c'est pas parfait, mais après j'ai pas passé 2 heures dessus, j'aurais pu peaufiner et tout, mais c'est pas mal quand même. Gamma.
Ok. Non. Oui, c'est plutôt le rendu est super propre et on va s'appuyer justement là-dessus pour parler du sujet du jour qui est Next.js. Et est-ce que toi tu te rappelles de la date exacte de la première version de Next.js ou pas?
Ah, tu me poses une colle, je l'avais vu. C'est 2016, mais après exactement le mois, je ne sais plus du tout. Mais c'est 2016, ça c'est sûr. Donc il y a quasiment 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Donc,
ok. Ouais,
ça date, c'est 10 ans.
Ouais, next, mais 10 ans d'évolution, c'est clair qu'il s'en est passé. Aujourd'hui, on est à la version combien? C'est quoi, 15, 16?
C'est la 15, ouais. Là. C'est
15.
La 15 en ce moment.
Ok.
D'ailleurs, du coup, 2016, ouais. 15 et puis... maintenant, on en parlera à la fin, mais il n'y a plus de grosse révolution, mais c'est pas mal.
Et ok, allez, si on attaque tout de suite, et pourquoi en fait on a eu la genèse de Next et pourquoi Next est apparu, pourquoi il arrivait comme une solution évidente?
En fait, tout simplement, alors déjà React, je rappelle, ça a été créé en 2013. Donc ça fait déjà plus de 10 ans. Donc voilà. Donc pendant plusieurs années, jusqu'en 2016 à peu près, on faisait des SPA, donc single page application, qui étaient exécutées dans le navigateur, uniquement dans le navigateur. Donc on a rapidement eu une problématique. Donc c'est cool de les SPA dans le navigateur quand tu fais un intranet ou des choses comme ça qui n'ont pas besoin de SEO. La problématique, tu l'as rapidement quand tu as besoin de faire du SEO et que quand ton robot qui va crawler comme Google, tout ça, il arrive sur ton site et il a juste un site vide en fait. C'était le problème qu'on avait avec les SPA. Donc il a fallu rapidement faire du SSR. Donc c'est-à-dire générer l'application côté serveur. Donc qu'elle soit rendue en markup HTML et pour que le robot puisse crawler le contenu et puis l'indexer. Quoi.
SSR, Server Side Rendering. Au moment où l'appel se fait, en fait, c'est le serveur qui génère le HTML et notre navigateur récupère le HTML directement déjà construit et donc beaucoup mieux pour le SEO.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a encore des gens qui pensent, surtout des spécialistes SEO, qui pensent encore que les applications JavaScript ne sont pas indexables. Voilà. Ils sont restés là-dessus, en fait. Donc, j'en ai des fois qui me disent « Non, mais c'est du JavaScript, c'est pas possible. » Mais si, maintenant, oui. Mais donc, voilà. Donc, en 2015-2016, on avait... Donc, c'était possible, en fait, à cette époque-là, de faire du SSR. On avait du... Alors, à l'époque, c'était principalement React Router qu'on utilisait pour faire le routing au niveau de l'application. Et on avait du Redux, des choses comme ça, voilà, pour faire le state et tout ça. Pendant longtemps, Redux, c'était l'outil principal pour le state management au niveau de React.
C'était le standard. C'était le standard.
Ouais, c'était le standard très, très verbeux, etc. Mais c'était le standard. Il n'y avait quasiment que ça, en fait, au niveau de React.
Ouais.
Et donc, on pouvait faire du SSR. Seulement, c'était assez compliqué, en fait. Alors, React avait, dès le début, implémenté une API qui s'appelait RenderToString, qui permettait, côté serveur, de rendre l'application sous format HTML. Donc ça, déjà, ça marchait nickel. La problématique, c'est que dans ton application, tu vas avoir différentes routes et forcément différentes datas à injecter, en fait. Et c'est là où ça se complique, parce qu'en fait, il faut rendre le HTML avec les datas à l'intérieur. Et là, du coup, ça devient compliqué parce qu'il faut trouver alors quelle route, quelle data, les chercher, les fetcher, des fois en asynchrone, et en plus les injecter et rendre l'application. Donc les SSR, ça se faisait, mais ça devenait une complication au niveau de la gestion des data, tout ça. Donc ça se faisait, et c'est pour ça que j'ai mis un exemple de projet que j'ai donc il y a plus de 9 ans sur GitHub là. Voilà, c'est j'avais fait Universal App React, donc voilà, le projet a 9 ans déjà. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on faisait à l'époque avec du Webpack, du Redux, etc., du L'Express.js, et on faisait un rendu serveur, etc. Mais c'était hyper complexe, très verbeux, beaucoup de code, etc. Donc c'était très difficile à maintenir.
9 ans, justement... quoi. 9 ans.
Ouais, plus de 9 ans.
Ce repo à 9 ans, quoi. Excellent. Ouais. Ouais, bravo, bravo.
Et donc, c'est ce que justement, quand Next.js est sorti, c'est justement ce que Next est venu solutionner en fait, la simplicité de faire du SSR. C'est surtout ça en fait, l'arrivée de Next.js, ce que ça a changé en fait.
Ok.
Voilà. Donc en fait, il faut se rappeler, quand Next.js est arrivé, les premières démos c'était, en fait, les premières vidéos c'était, je rajoute un fichier dans un dossier, à l'époque, et c'est toujours le même, c'était app, c'était pages, ouais, c'est ça, et tu mettais un fichier index, et tu tapais, en fait, tu faisais un retour, une fonction de component React, et tu avais de suite une page qui s'affichait, slash, la page d'accueil, et c'était hyper rapide, donc c'était le routing, le file routing.
Ouais, en fait, c'est le file routing system qui est aussi venu révolutionner le truc parce que, alors moi à l'époque, j'étais pas dans l'écosystème React, mais j'étais dans l'écosystème Vue, mais la problématique était la même. Ton Vue router ou ton React router, il fallait en fait, t'avais un fichier mais énorme de JSON avec où tu venais en fait mapper, tu dis ok, mon router, telle URL, tu vas interpréter, tu vas l'appeler comme ça et tu vas pointer vers tel composant et ce composant sera interprété en tant que page. Et ça, en fait, alors quand tu avais 2 pages, ça allait à peu près, mais dès que tu avais une dizaine de pages, voire après quand tu avais des pages dans des pages dans des pages, où en fait tu avais une imbrication, ok, la catégorie... ou la catégorie, puis après l'article ou les choses comme ça. Waouh, c'est, t'avais un fichier de config qui était juste énorme et ouais, c'était inverbeux et ta source d'erreur était mais juste monstrueuse, quoi. T'étais sûr de te tromper une fois sur quatre. Et donc, ouais, non, c'était l'enfer. Et là, le fait rien que le fait de mettre le fichier, le bon fichier, dans le bon dossier, et tout de suite, c'est interprété avec l'URL, avec les paramètres, avec. Et il est automatiquement interprété en tant que page. Ouais, mais ça, c'était déjà game changer.
Ça, c'est la révolution, vraiment. Déjà. Ouais.
Ah ouais,
le file routing, c'est déjà énorme. Et aujourd'hui,
game
on aurait,
changer, bien sûr.
On aurait du mal à s'en passer. Ça, c'est clair. Donc ça, c'était c'est une des premières features qui est arrivée avec Next.js. Donc déjà, au-delà du SSR, c'était déjà génial de pouvoir faire le file routing. Ensuite, on avait l'environnement, en fait. L'environnement direct, tu avais un environnement de dev, un environnement de production, où tu faisais un build et puis hop, c'était prêt à être déployé, en fait. Donc ça, c'était pas mal aussi. Pas besoin de config, etc. Et surtout, un rendu côté serveur, en fait. On avait déjà, voilà, on créait une application React et on avait aussi du SSR automatique, en fait. On mettait ça sur Vercel, donc à l'époque, qui s'appelait...
Now
alors, voilà.
Now. Ouais, ouais.
Donc, on déployait ça direct et en fait, on avait une fonction qui s'appelait getInitialProps où on injectait les données qui devaient être dans le component. Et donc, côté serveur, il récupérait ça, il l'injectait et il rendait l'application déjà construite, en fait. Et c'était hyper simple, en fait. Contrairement au repo qu'on a vu juste avant, mon repo qui était hyper compliqué, bah là, ça devenait tout facile, en fait. Voilà. Donc voilà, quand on revient en 2016, c'est vraiment la révolution, ce nouveau système hyper simple à utiliser et faire du SSR facilement, etc., avec du React.
Ouais, et c'est là où en fait y a eu un peu cette effervescence de tout l'écosystème JS. Où ça annonçait vraiment une grosse révolution parce que avant c'était vraiment mais hyper hyper complexe et hyper verbeux, on passait des heures et des heures à faire de la configuration et là en fait on respectait la convention et c'est un peu la doctrine convention over configuration et donc on respecte la convention et ça marche tout de suite et ça mais ouais. extraordinaire.
Ben ouais, et je rappelle aussi, après on a eu la vague un petit peu JS fatigue, où justement on avait marre de faire de la config, on faisait passer notre temps à configurer des tools.
Ouais, ouais,
parce que je rappelle qu'à l'époque, en 2016, on n'avait que Webpack, on avait Babel, Webpack, Redux. Enfin, ceux qui étaient déjà développeurs à l'époque savent à quel point c'était compliqué, rien que de Webpack et tout ça, avec les resolvers et tout ça. Bref, l'enfer.
Ouais, c'était devenu super simple. Carrément. Voilà. Un gros point aussi que tu as mis sur la slide, c'est le code splitting ouais. qui devient en fait un peu un nouveau standard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le code splitting, c'est vraiment l'idée. On va prendre très, très simple. On arrive sur la page admin. Donc, j'ai mon login et mon password. Et en fait, je vais récupérer toute mon application alors que je ne suis que dans la page de login. Donc, c'est un peu un non-sens. Et le code splitting, en fait, permet de venir découper chaque fichier sur chaque page et chaque page est récupérée au moment où on arrive directement sur la page en question. Ce qui fait qu'au lieu de récupérer un énorme paquet où il y a tout dedans, on vient récupérer de manière incrémentale ces petits bouts de code au fur et à mesure. Et donc, ça, en fait, on gagne des performances de maboule parce que, en fait, on vient récupérer que le fichier sur lequel on est. Ce qui fait que quelqu'un qui ne navigue jamais sur la page contact, par exemple, n'a pas le code contact récupéré en amont. Alors qu'avant, sans ce code splitting, vu que l'application a été construite côté client, il était obligé de récupérer l'intégralité du site parce qu'il était construit dans le navigateur. Et là, il s'affichait même si en fait la personne ne naviguait pas sur la page contact, il était néanmoins, en fait le code était néanmoins dans son navigateur. Et donc ça, c'était une grosse révolution ouais. En termes de perf, ça. Hein.
Oui, ouais, c'était intégré direct, donc tu avais ton code qui était en fonction des routes qui étaient séparées et ça chargeait au fur et à mesure. Donc c'était aussi une fonctionnalité qui venait de Webpack, mais qui était déjà configurée, qui était déjà, voilà, prête à utiliser. Mais ça nous apportera d'autres problèmes plus tard, on en reviendra vers 2020. ensuite, on avance, donc voilà, le framework évolue, etc., petit à petit. On arrive en 2019, grosse avancée sur la version 9, en fait, où on nous amène le système de routing, de file routing toujours, mais où on peut mettre des file routing dynamiques. C'est-à-dire qu'entre crochets, on va mettre des paramètres qu'il doit récupérer. Et donc, on a des URL maintenant qui sont dynamiques et qui permettent en fait d'avoir une page qui affiche différents types d'articles, de blogs, etc., en fonction du slug ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une révolution parce que ça amène pas mal de choses et ça simplifie aussi pas mal le file routing. Donc, d'ailleurs... Ouais.
Vas-y, déroule.
D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde s'en est inspiré. On a quasiment ça sur tous les frameworks front, voilà, du système dynamique.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est aujourd'hui, c'est devenu un standard, quoi. C'est vraiment le standard. Et on imagine difficilement comment on faisait avant, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement confortable. Donc, ouais. Mais ce n'est pas si vieux que ça, en fait. Ce n'est pas si vieux.
Non, c'est pas si vieux, hein. On parle de 2019, donc version 9, et il y a aussi une nouvelle fonctionnalité, Get Server Side Props, qui permet de récupérer des données en fait plus simplement côté serveur pour l'API. Ensuite, on avance 2020. Donc on a vraiment passé quelques années, mais c'est après vraiment ça va changer. On arrive sur l'année génération statique. C'est super hype. Je rappelle qu'en 2020, on est début Covid. Gatsby devient hyper populaire. Moi, j'étais fou de Gatsby en fait à l'époque.
La première version du site de double slash était en Gatsby.
Oui, d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Donc, le statique devient hyper populaire parce que voilà, c'est cool, on fait des sites qui chargent vite, etc. Donc, Next.js se sent un petit peu obligé de s'adapter et de faire une fonctionnalité de génération statique. Donc, c'est là où on a le SSG qui arrive sur Next.js. On a des nouvelles API, Get Static Props, Get Static Pass et Get Server Side Props. C'est des API en fait, qui permet de récupérer les data pour générer les pages et les déployer en fait déjà construites en fait en HTML directement. Donc là, quand on déploie, on a un site HTML quoi.
Et Patrick, est-ce qu'on peut faire une ellipse en fait et de revenir encore encore plus longtemps avant dans les années 90 on se rappelle que les sites statiques c'était le standard en fait, c'était un truc totalement basique où en fait on avait du HTML et on déployait ça sur nos serveurs qui à l'époque pour la plupart on déployait ça via FTP et en fait la personne récupérait ce site statique et on naviguait, c'était directement interprété dans notre navigateur parce qu'on n'avait rien besoin de faire, c'était natif. Et donc en fait la grosse critique qu'on avait eue à cette époque-là, c'est que avec tout ce mouvement qu'on appelait la Jamstack, la JavaScript API Markup, où en fait on venait régénérer des sites statiques, mais avec des outils modernes. Donc en fait on utilisait les outils modernes type Next, Nuxt et après Astro et tout ça, mais pour faire des choses qu'on faisait déjà avant, sauf qu'on les faisait différemment et on a utilisé en fait ces nouveaux outils qui nous permettait en fait de revenir sur du statique. Donc en fait c'est comme si on refaisait ce qu'on faisait déjà avant, mais avec d'autres outils et l'approche était différente, mais le résultat final lui est totalement identique.
Alors ouais, le résultat final est identique quand on est. Alors l'avantage c'est que avec les outils modernes, tu évites de. Par exemple, si tu as un header, un footer, tout ça, tout ce qui est layout et tout, tu vas éviter de le répéter. C'est toujours le même qui va se mettre dans toutes les pages. Alors qu'à l'époque, on avait vraiment une duplication de code. Bon, on avait des outils comme Dreamweaver, FrontPage et trucs comme ça, donc qui géraient ça tout seul. Mais oui, avec les outils modernes, c'est beaucoup mieux géré. Après, tu as deux types de statiques. Tu as le statique Astro et Hugo, des choses comme ça, où c'est vraiment du HTML. Et quand tu clique sur un lien, la page est rechargée sur une autre page. Alors que quand on prend du Gatsby ou du Next.js ou du Nuxt, une fois que c'est chargé la première page, on passe en mode application. où tu, là, tu vas naviguer dans l'application, il n'y a pas de rechargement de page. Voilà. Tu as deux types de statiques. Voilà. Donc, après, chacun voit l'utilité de l'un ou de l'autre, mais il
yes.
voilà, faut, okay. faut préciser.
Exactement. Et petite ellipse temporelle là-dessus.
Ouais, ouais. Nous, on est assez vieux pour avoir connu, pas les années 80, mais dans les années 2000 à peu près, quand on codait au début. Bref. Donc ça, c'est cool, le statique, prendre l'ampleur, tout ça. Mais on arrive à un... Le statique, c'est cool, mais on arrive à un moment où on est bloqué. D'ailleurs, j'avais fait un article dans... Comment il s'appelait ce site? Jamstatic.fr. C'était quoi déjà le...
Attends, j'ai... Jamstatic.fr.
Ouais. J'avais fait un article, en fait, parce que j'avais fait un POC sur... à l'époque, pour un client avec qui je travaille toujours, qui avait un site... qui étaient intéressés par le statique, mais la problématique, c'est qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de pages, donc plus de 20 000 pages, en fait, d'articles, en fait. Et on s'est rendu compte que pour déployer, au niveau de ce POC, tout ça, en fait, c'était pas possible. On pouvait pas déployer 20 000 pages, c'est-à-dire que construire 20 000 pages au moment du déploiement, c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué, etc. Donc, ça matchait pas et souvent, ça plantait même. Au bout de 40 minutes, le site n'était toujours pas déployé. Enfin bref, ça marchait pas. Et j'avais fait un article sur jamstatic.fr pour dire, on a un problème, ça marche pas. Quoi. Et c'est là où est arrivée la génération statique incrémentale. Donc, voilà. Donc, c'est une fonctionnalité qui est arrivée en juillet 2020, donc sortie de confinement, je crois. Petit souvenir. Désolé. Next.js a implémenté ça, en fait. C'est tout simplement la possibilité de déployer un site sans toutes les pages de construite. C'est-à-dire qu'on va, on va déployer le site, mais par exemple, on ne va pas construire tous les articles du blog, on ne va pas construire certaines pages, etc. On va le déployer. Et quand quelqu'un va arriver sur un article, par exemple, qui n'existe pas, qui n'a pas été construit, et ben Next va le construire, va construire la page et va la renvoyer. Et ça, en fait, c'est une génération statique incrémentale. Ça permet, en fait, justement, de déployer des sites avec énormément de pages, énormément de data, rapidement, et ensuite, les pages sont générées à la demande. Et ça, c'était la réponse à la problématique, justement, de ne pas pouvoir déployer du statique en grande quantité.
Mais ça, en plus, c'est vraiment brillant comme approche, parce que le premier, OK, la première personne qui demande l'article, elle est légèrement pénalisée. Sa réponse est un petit peu plus longue. Sauf que le résultat, en fait, il est caché, il est enregistré en cache, ce qui fait que la deuxième personne, elle l'aura de manière instantanée parce que la page a déjà été construite. Et donc, ça, c'est vraiment mais monstre puissant et malin parce que en fait, on vient vraiment optimiser. Par contre, il y a un couplage assez fort entre l'applicatif et, pour le coup, le serveur et, on va dire, l'infrastructure où est stocké le site. Parce que si on n'a pas l'infrastructure qui est en capacité de digérer, d'absorber ce type de fonctionnalité, ça ne marche pas. Ouais. On est bien d'accord.
C'est là aussi où... Alors, Next.js est souvent réputé être... Vercel est très bien... Enfin, comment dire? Ils le vendent comme ça. Next.js fonctionne très bien sur Vercel. OK. Vercel fonctionne en mode serverless, en fait. Mais cette génération incrémentale, en fait, elle fonctionne très bien sur Vercel. Après, quand on est en self-hosting, donc qu'on va faire tourner sur un serveur à nous avec du Node.js derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout pour la fonctionnalité suivante, et je vais vous expliquer. Puisque là, donc ça, c'est cool, on sort des sites, ça génère la page à la demande, mais on a une problématique. Le marketing, enfin, la rédaction... veut modifier un article. Ah, je change le titre ou je change. Ah, j'ai une faute, je vais changer la faute. Comment je fais pour changer la page qui a été générée en fonte? Elle est déjà générée, elle a été visitée. Eh bien, c'est pas possible à l'époque. Donc, il faut redéployer le site. OK? Ou alors, on peut mettre une date. En fait, ah oui, précisons. Dans la génération incrémentale, tout ça, on pouvait mettre une date.
De péremption.
Ouais, de péremption de la page pour qu'elle se rafraîchisse au bout de X temps. Mais si la date elle est trop longue et que la personne à la rédaction modifie le texte, bah, il faudra attendre qu'elle soit périmée pour être renouvelée. Donc ça peut être long. Si jamais c'est une énorme faute dans le titre, c'est très gênant, quoi. Tu vois. Donc en 2022, Next.js sort une fonctionnalité qui, pendant longtemps, est resté uniquement. Enfin, c'était que disponible sur Next.js. Et c'est aussi un peu pour ça
Sur
que des gros.
Vercel,
Ouais.
tu veux dire?
Non, non, sur Next.js, vraiment.
Ok.
C'est une fonctionnalité qui est interne à Next.js, qui est restée très longtemps. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a d'autres. Je crois que Nuxt le fait maintenant. Mais pendant longtemps, c'était le seul framework à le faire. Et ce qui fait qu'il y a des gros sites, Booking.com, tout ça, qui sont sur Next.js, sont passés sur ce type de techno comme
À
Next.js,
ce
parce qu'il y
moment-là.
avait cette fonctionnalité. Ouais. C'est la revalidation à la demande. C'est-à-dire, ils appellent ça le on-demand ISR, Incremental Static Regeneration. C'est-à-dire qu'on va, il y a une API, donc via les routes API, on va pouvoir appeler cette API et dire invalide-moi cette URL. Par exemple, invalide-moi la home, par exemple.
Et ouais.
Donc ça invalide automatiquement la home, et donc quand tu retournes sur la home, elle est régénérée automatiquement. Et donc là, on peut invalider les URL qu'on veut et donc rafraîchir les pages comme on veut.
Très propre, très très très
Et
très
ça,
très très puissant.
c'est révolutionnaire.
Mais
Garanti.
ouais, mais comme toujours, en fait, à chaque fois qu'on a là, indirectement, c'est un système de mise en cache, de toute façon. Voilà, on est venu construire quelque chose et on l'a mis de côté pour que le prochain le récupère. Intrinsèquement, de manière inévitable et immédiate, en fait, ça amène le problème de, OK, comment on fait pour invalider ce cache? Et donc, ça, c'est le fait de pouvoir, en fait, d'avoir un endpoint où on peut dire, OK, bah, celle-ci, tu la dégages et tu invalides le cache sans passer par la régénération du site, le rebuild et le redéploiement. Ça, c'est game changer, c'est clair.
Bah c'est la fonctionnalité qui fait que bah, c'était génial en fait d'utiliser Next.js, surtout si tu as ton CMS en fait, ou quand tu vas éditer une page, tu as mis en place un webhook qui va appeler l'API et qui va dire bah, cette page, il faut la régénérer parce qu'elle a été modifiée. Et là, ça devient automatique et tu es
Et
tranquille.
surtout, en fait, je pense que c'était un énorme frein pour les gros sites, en fait, qui génèrent beaucoup, 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 beaucoup de pages. Sans cette fonctionnalité-là, comme tu l'as dit, c'était pas possible, en
Ah, c'était
fait.
bloquant. Ouais, c'était complètement bloquant.
Et donc, grâce à ça, je pense que peut-être l'explosion de l'utilisation de Next.js sur des gros sites de production est arrivée à ce
Ah oui.
moment-là.
Ouais, c'est
Ouais,
ça, c'est
sans
ça.
surprise.
Carrément. On avance encore un peu. Donc, on est toujours en 2022, mais on est en octobre 2022. Grosse sortie, grosse évolution et gros switch de Next.js. Et pourquoi? Alors déjà, on va commencer pourquoi il y a eu ce switch. Tout simplement qu'en 2022, on est arrivé à un moment où tout ce qui était bundle JavaScript, etc., parce qu'il faut rappeler que quand Next.js, Nuxt ou n'importe quoi se charge, il charge aussi une grosse partie de l'application. Donc on a souvent un gros bundle JS de base qui est chargé. Après, il y a l'hydratation, enfin le browser va faire fonctionner l'application, etc. Donc, il y a tout un système de rendu de l'application qui est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de JavaScript, etc. Et là, on est devenu, à un moment donné, sur les tests de performance des sites, bah, c'était de moins en moins bien noté, c'était même pénalisé d'avoir beaucoup de JavaScript, etc. Donc, on commençait à avoir un problème de SEO puisque bah, les sites étaient comme s'ils étaient
Lent.
un peu trop lents, etc. Voilà, lents, pénalisés parce qu'il y a trop de JavaScript, etc. Donc, on a vraiment un problème à ce moment-là. Et donc, la solution, c'est ce switch complet de Next.js vers un nouveau système, l'App Router. Donc, c'est un nouveau répertoire APP où on a un nouveau système de components, etc., de routes un petit peu plus complexes. Et on a des serveurs components qui sont des serveurs, enfin, c'est des components par défaut maintenant. Quand tu crées un component dans le répertoire APP, c'est par défaut un serveur component. Et pour que ce soit un client component, il faut marquer use client en haut. Donc on a tout un système, un nouveau paradigme, un nouveau truc à apprendre. Malgré tout, le système Pages fonctionne toujours. Et même aujourd'hui, dans la version 15, il fonctionne toujours. Donc les sites qui sont sur le système Pages continuent à fonctionner. On peut faire les mises à jour et tout ça, machin. Mais normalement, tous les nouveaux sites que tu développes, tu dois partir sur l'APP router, puisque c'est l'avenir de Next.js. Non. Voilà. Donc, ce que ça apporte, en fait, tout simplement, bah, les serveurs components, la première chose, c'est que parfois, on a des components qui sont là juste pour afficher du texte. Il n'y a pas besoin qu'ils soient interactifs. Donc, autant avoir un serveur component qui va être là juste affiché et celui-là, il ne sera pas inclus dans le bundle. Donc, ça va alléger le bundle. Tous les serveurs components qu'on va faire, ils ne sont pas dans le bundle final. donc moins de JavaScript envoyé dans le navigateur. On a un système de streaming. Streaming, ça permet en fait d'avoir certains éléments qui sont chargés par la suite. Donc on charge rapidement la page et ensuite des petits blocs qui sont chargés ensuite, donc qui ne sont pas importants, etc., qui ne sont pas forcément importants pour le SEO. Et puis on évite voilà, tout ce qui est JavaScript inutile. Donc c'est vraiment une version, la version 13, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la 13 ou la 12, je ne sais plus. C'est
13.
Une grosse version.
Ouais, 13. Et c'est une grosse version et ça vient aussi changer le paradigme, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est ça qui a été le... Ça n'a pas été de souvenir, parce que ce n'est pas très, très, très vieux. Ça n'a pas été très, très bien accueilli parce que ça cassait quand même beaucoup les codes et le paradigme initial changeait. Donc, difficile à faire la migration. La migration n'était pas facile. Il fallait faire de l'éducation. Il fallait accompagner ce changement pour comprendre l'intérêt. Quoi. Ouais.
Bah, la migration, elle est quasiment impossible. En fait. C'est-à-dire que tu dois quasiment réécrire ton application. Parce qu'on n'est vraiment pas du tout... Entre les serveurs components et les clients components, par rapport à ce qu'on faisait avant, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, il faut réécrire une bonne partie de l'application. Il y a plein de choses à écrire. Il y a un nouveau système de fetch aussi qui est inclus avec du cache, etc. Donc, il y a plein... Enfin, tout est changé, en fait. C'est quasiment... En fait, ils auraient presque pu appeler... changer le nom de Next.js et faire un nouveau framework parce que c'est tellement différent qu'on ne peut quasiment pas migrer, en fait, un Pages à un app router, en fait. Donc déjà ça c'était mal perçu et on a déjà vu d'autres frameworks où ça s'est passé comme ça où ça s'est mal passé aussi sur Angular ou des choses comme ça. Ou quand tu voilà, tu as un truc qui marche bien et tout et on te dit bah faut tout changer, tu comprends pas en fait. Tu dis mais pourquoi je vais tout changer?
Ouais.
Voilà, c'est trop de travail etc. Et moi j'ai des sites là aujourd'hui de clients qui sont toujours sur le page router en fait. Et c'est pas prévu que ça change de suite en fait parce que c'est tellement de travail et tellement de budget qu'ils ont pas prévu ça quoi. Donc tant que ça marche, on l'utilise. Et puis, ouais, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de, comme tu dis, d'évangélisation, tout ça. Et on voit que Vercel, depuis fin 2022, ils sont à fond dans l'évangélisation, expliquer les serveurs components. Et il y a encore des gens qui ne comprennent pas comment ça marche, etc. Donc, ça a été une super... Enfin, moi, je trouve que j'ai déjà fait le site avec l'app Router. C'est top du top, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y en a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment ça fonctionne, etc., le serveur component, tout ça. Donc, c'est très compliqué. Et en fait, Vercel, maintenant, depuis fin 2022, fait beaucoup d'évangélisation, de tutos, etc., voilà. Avec leurs relations développeurs, etc.
Mais il faut éduquer surtout sur des changements de paradigme comme ça. Ils ont pas le choix, donc à grand coup et à grand renfort de DevRel, de vidéos YouTube et de sponsorisation d'événements, de formation, de tout ça pour justement expliquer ce paradigme là et quel est le bénéfice sous-jacent parce que un développeur qui comprend pas pourquoi il doit tout réécrire son application, ça va être difficile pour lui d'aller demander de l'argent à son client ou d'aller justifier à son project manager, à son CTO ou à son CEO en disant ok mais là il faut qu'on change tout de manière très pragmatique. Non mais à quoi ça va servir? Ça marche, ça fonctionne, ok. Mais si on a une vision à long terme et on est en capacité d'expliquer le bénéfice sous-jacent de cette migration, ça sera plus facile d'aller vendre cette migration. Et donc, d'où l'importance de bien comprendre les tenants et les aboutissants des évolutions possibles et de la rupture que ça a amené à ce moment-là, quoi. Clairement.
Ouais. Voilà. Donc, dernier slide, c'est... Il y en avait un derrière ? Ouais, c'est ça. Bah, depuis fin 2022, comme je l'ai dit, donc évangélisation, tout ça. Mais depuis, il n'y a pas eu de grosses versions. Donc, on a 13, 14, 15, on a la 15. Et voilà, les migrations se font sans problème. Voilà, c'est juste des améliorations de performance, des optimisations, quelques nouvelles API, mais on n'a pas de gros changements. Et comme je le dis, là, Vercel, ils passent leur temps à évangéliser. Tout simplement. Mais voilà l'historique en gros de Next.js.
Après, il y a aussi ce couplage en fait avec l'infrastructure qui est quand même toujours un peu intéressant. C'est voilà, soit on va mettre ça sur un serveur classique, soit aujourd'hui en fait il y a le serverless, qui donc a été justement poussé par Vercel, tout ça. Et il y a aussi cette notion de edge, donc de edge computing, où on vient en fait du serverless. Ouais. OK, mais du serverless, c'est pas sans serveur, déjà. Mmh. Ça va exécuter du code sur un bout de serveur qui est quelque part. Sauf que ce serveur-là, potentiellement, il peut être loin de notre utilisateur final. Et aujourd'hui, Vercel, qui en fait avant était juste des CDN classiques, où en fait c'est des énormes SSD partout dans le monde, maintenant en fait on va pouvoir exécuter du bout de code parce que le runtime, donc l'exécution de ce JavaScript, maintenant peut se faire sur des plus petits serveurs qui sont proches de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le edge runtime. Et donc, le fait de passer sur ces routeurs, sur ce app router, et donc sur ce SSR par défaut, en fait, va nous permettre aussi de déployer au plus proche de l'utilisateur. Et donc, en fait, c'est à la fois un gain pour l'utilisateur, mais aussi pour l'infrastructure qui va être répartie et déployée partout. Et donc, il y a toute cette effervescence du edge. Et aujourd'hui, on voit avec les runtime qui peuvent se mettre partout. Next, en fait, profite aussi de cette évolution d'infrastructure, quoi.
Alors, justement, Next, par rapport à... si on prend du Next, par exemple, Next gère très mal... Enfin, t'as pas de provider comme ça. Tu peux pas changer facilement de provider. C'est le défaut de Next.
C'est pas bien,
aussi.
Ça.
Non, ouais, mais clairement... Alors, Next, quand tu vas sur Vercel, oui, c'est du Edge, plus ou moins, serverless, machin, CDN. Par contre, c'est difficile d'aller sur Cloudflare avec un XJS ou des choses comme ça. Après, tu peux l'héberger toi-même. Non, là, tu passes sur du Node. J'ai oublié d'en parler, mais justement, le ISR, là, l'invalidation des pages avec l'API, ça pose des problèmes. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on est sur Scalingo. On peut faire plusieurs instances, donc plusieurs next. Problématique, c'est que tu vas invalider une URL sur un des conteneurs. Et ça ne va pas répercuter sur le conteneur. Donc, en fonction duquel conteneur tu es envoyé quand tu arrives sur le site, tu auras l'ancienne page ou la nouvelle page. Et là, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il faut commencer à gérer le cache des pages sur Redis ou des trucs comme ça. Et voilà. Et là, tout se complique. Et donc, voilà. Pour ça, Next.js, il n'est pas super flexible en dehors de Vercel. Et c'est aussi le défaut, souvent, qu'on reproche à Next.js d'être trop couplé à Vercel. Et dernièrement, ils ont fait des annonces, justement, ils allaient améliorer ça et être un peu plus disponible pour le Edge et tout ça. Là, c'est des annonces il y a pas longtemps.
C'est plutôt bien. Après, il faut aussi être lucide sur le fait que aujourd'hui, la grosse partie de l'équipe qui développe Next, tout le monde travaille chez Vercel.
Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup.
Peut-être qu'ils ont... Alors, à la fois, c'est normal, mais c'est un choix qui est aussi dangereux. Mais je pense que ce risque est calculé dans la mesure où, aujourd'hui, l'implémentation de React et de Next sur le marché de la production, elle est énorme. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont en monopoly parce que ce n'est pas vrai, mais ils ont des parts de marché quand même assez grandes, significatives en tout cas, pour pouvoir tordre un peu la main, quoi. Peut-être qu'ils y sont allés un peu fort et donc maintenant, ils sont obligés de rétro-pédaler, mais d'être un peu plus conciliants.
Ils sont un peu obligés pour l'image, etc. Après, c'est très dangereux. Ça, on en parle souvent, hein, de la gouvernance des projets, tout ça, parce qu'en fait, finalement, c'est Vercel qui décide de ce qu'ils vont faire, dans quelle direction ils vont aller. C'est très dangereux. Et on a un exemple très récent avec WordPress où le boss d'Automatique, Matthew Mullenweg, a pété un câble à un moment donné c'est parti en vrille complet. Et pourtant, c'est un projet open source, mais il y a une gouvernance d'une société privée sur le projet. Et là, on a le même cas avec Vercel. Alors, pourquoi pas Guillermo, demain, il veut il peut péter un câble et puis
il a plus envie.
Bloquer tout.
Top. Bien sûr.
Voilà.
Super.
Donc
super,
voilà, il va dire maintenant la priorité c'est l'IA et on s'en fout de Next.js et puis peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dangereux le mélange comme ça, société privée et projet open source, mais bon.
Yes. Top. Merci Patrick pour ces explications d'un épisode un petit peu particulier parce que voilà, on reprend un peu l'histoire de Next et je pense que ça nous amène une meilleure compréhension de l'outil qu'on utilise quasiment au quotidien pour beaucoup. Et donc, ouais. Comprendre tout son historique, en fait, nous aide à encore mieux savourer le plaisir qu'on a à l'utiliser et toutes ses fonctionnalités qui nous dev en tout cas, nous solutionne la vie et nous facilite la vie grandement.
Ouais,
donc,
ouais.
Ça, c'est top.
Oh. On fera un Next.js, peut-être.
Il était une fois un Next.js, ouais, carrément.
Chauffin pour nous donner l'historique.
Carrément. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, que vous soyez sur YouTube ou sur votre application de podcast. Discutez de l'épisode avec vos collègues, ça nous fait toujours plaisir. Et pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, vous pouvez aussi nous soutenir sur le GitHub sponsor de l'émission. Et on mettra toujours, évidemment, tous les liens sont dans la description. Un grand merci à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.
À plus.